Bonjour, je suis Meg Daventou, la fondatrice de Voyeux PhD. Voyeux PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont conduits sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Chaprieur. Chaprieur est psychopraticien et chercheur indépendant. Après avoir soutenu une thèse en géographie intitulée « Penser les lieux queer entre domination, violence et bienveillance, étude à la lumière des milieux parisiens et montréalais », il décide de se reconvertir. Il nous parle en toute transparence des violences auxquelles il a été confronté pendant son parcours universitaire et quel rôle cela a joué dans sa reconversion. Je vous laisse découvrir notre échange.
Bonjour Chaprieur, je te remercie d'avoir accepté de me recevoir pour ce nouvel épisode de Voyeux PhD. Tu es chercheur et psychopraticien et je voulais te demander qu'est-ce qui t'a amené dans un premier temps à faire de la recherche.
Alors, la recherche, j'y ai pas pensé tout de suite dans mon parcours. À la base, je voulais être prof d'histoire géo quand j'étais jeune. Jusqu'à, je pense, ma licence et même mon entrée en master, c'était encore mon projet. Je pense que je voulais faire un KPS pour devenir prof. Et puis en fait, en M2, j'étais dans un master qui s'appelait Culture politique patrimoine. Et j'ai commencé à découvrir la recherche, c'est-à-dire qu'avant, je sais pas, on apprend nos cours, on apprend ce qu'on nous dit, et puis là, j'ai commencé à être directement en lien avec des textes, notamment des textes anglophones, dans un cours que j'aimais beaucoup, qui était donné par Louis Dupont, qui est devenu mon directeur de thèse ensuite, et c'était vraiment sur la géographie culturelle anglophone. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre et à entendre parler de la question des rapports de domination, de comment se structurait la société, comment on pouvait se poser des questions, même en tant que géographe, à la fois au niveau de l'État, de la ville, des communautés, mais aussi au niveau individuel. Et tout ça, ça m'a donné hyper envie de faire de la recherche. Ça m'a un peu fait penser au cours de philo de terminale, quoi. Ça m'a vraiment ouvert toute une perspective de pensée et de recherche.
D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as pensé, dès ton master, à faire une thèse ?
Oui. En fait, c'est drôle. Ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'avais rendez-vous avec mon directeur de master pour parler de mon sujet de mémoire de M2, qui n'était pas du tout sur la même chose que mon sujet de thèse. Et en fait, il m'a dit...
C'était quoi ton sujet de M2, si c'est pas indiscret ?
Mon sujet de M2, c'était... je travaillais sur les espaces viticoles périurbains.
D'accord.
Donc plutôt côté terroir, voilà, c'est une des branches de la géographie culturelle.
D'accord.
Et donc voilà, je voyais Louis Dupont et il me dit « Ah, tu travailles bien, t'as jamais pensé à faire une thèse ?» Et je lui réponds « Non. » J'ai jamais pensé à faire une thèse. Et puis, dans les semaines, les mois qu'on suivit, je me suis dit, je me suis renseignée, j'ai vu qu'en fait, on pouvait être payé pour faire de la recherche. Ce dont je n'avais absolument aucune idée. Et j'ai commencé à réfléchir à ce sur quoi j'aimerais travailler. Et quelques mois après, je suis allée le voir et je lui ai dit, je voudrais travailler sur la géographie des homosexualités. Donc c'était un coming out, et une envie de travailler vraiment sur ces questions-là, quoi.
Et là, il est OK, il veut te soutenir, il est OK pour t'accompagner sur ce sujet, parce que, en fait, quand on s'engage dans un parcours de thèse, il faut trouver un directeur ou une directrice de thèse, et il faut trouver aussi une personne capable de nous accompagner pendant 3, 4, 5 ans. Généralement, c'est 5, 6 ans, déjà, en moyenne, une thèse. Est-ce que, dès le début, il a été OK pour te soutenir sur ce sujet, et même te soutenir pour les financements, et pour t'aider à avoir un contrat doctoral
Ouais. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce qu'il était le directeur du master. Mmh. Et en l'occurrence, c'est les directeurs de master qui présentent des personnes au concours pour avoir un contrat doctoral. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, et dans mon master, il y avait finalement pas trop de personnes qui voulaient se présenter. Donc, j'ai déjà eu la chance de pouvoir être soutenue à ce niveau-là. Il m'a beaucoup aidée. On a vraiment rédigé le projet ensemble. Enfin, en tout cas, je l'ai rédigé, mais on a fait des allers-retours pour qu'ils me disent, bah là, il faut que tu mettes ça en avant parce que le jury, il est constitué comme ça. Et donc,
D'accord. Donc
il était très stratégique et politique. Et je pense que c'est une des raisons qui m'ont permis d'avoir ce financement. Il m'a préparé aussi pour l'oral, donc vraiment il était très soutenant et je pense très heureux de voir ces thématiques arriver dans la géographie française, puisqu'il y avait qu'une seule thèse sur la question que Marianne Blédon avait faite et c'était tout. Donc c'était vraiment pour lui hyper intéressant et j'ai finalement eu le financement. Et même après, il a vraiment été là, présent. On allait souvent, en fait, boire un café pour discuter de mon travail. Et oui, on se voyait, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 15 jours.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet? Parce que finalement, ça n'avait, tu l'as dit toi-même, pas de rapport avec ton sujet de M2. Est-ce qu'entre-temps, tes analyses avaient évolué, tu avais envie de pousser un sujet, analyser en profondeur une thématique en particulier.
Je me suis dit que, donc avant je travaillais sur les questions de terroir, d'espace viticole, je me suis dit bon, travailler là-dessus pendant 5 ans, ça me branche pas du tout. Et qu'est-ce qui me parlerait à moi? Et en fait, comme on en avait entendu parler justement dans ce cours que lui nous avait donné, qu'il y avait des gens qui travaillaient sur la géographie des homosexualités, que c'était possible, que c'était intéressant, que c'était considéré comme de la géographie ailleurs. Je me suis dit, mais oui, c'est génial. En plus, comme personne l'a trop fait en France, j'ai plus de chances d'avoir un financement. Enfin, en géographie, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Et bien sûr, ça correspondait à un parcours personnel. Moi, j'étais déjà lesbienne depuis 7-8 ans, je pense. Mais j'avais jamais trop exploré en fait ces milieux-là, et donc l'idée de pouvoir aller travailler sur le terrain dans ces milieux-là, ça m'attirait beaucoup. Je pense aussi pour par envie de me connaître personnellement. Et à la base, mon projet de thèse était vraiment sur la normativité des lieux, et donc l'idée que le quartier gay pouvait être une hétérotopie, c'est-à-dire un lieu complètement autre avec d'autres normes par rapport à la société. Donc c'était mon hypothèse de départ, et en fait quand je suis commencé à aller sur le terrain, je me suis rendu compte que ça marchait pas très bien mon affaire, parce que les quartiers gays en fait sont hyper normés à plein d'égards, notamment par rapport au corps, et finalement c'est là que j'ai découvert les milieux queer sur lesquels j'ai fait mon travail.
Du coup tu t'engages dans ce parcours de thèse, tu y passes combien de temps?
5 ans.
Cinq ans.
Je fais ma thèse en 5 ans, ouais.
Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Enfin, j'imagine, bon, la plupart des chercheuses et chercheurs rencontrent des difficultés, ça c'est sûr, mais quelles ont été les principales difficultés, on va dire, que tu as rencontrées? Est-ce que tu as trouvé des solutions? Quelle stratégie tu as mis en place pour terminer ta thèse? Parce que c'est bien de commencer une thèse, mais c'est encore mieux quand on la termine.
Oui.
Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos sur comment ça s'est passé?
Oui, bien sûr. Alors, le premier axe, pour moi, c'est la violence du monde universitaire en termes de rapport de domination. J'ai vécu déjà du sexisme. Je me suis amusée à repenser à certaines blagues, entre guillemets, que m'avaient fait des collègues. Je peux t'en citer une ou deux que tu te rendes compte un peu du niveau, mais j'étais en tout début de thèse, on m'avait invité à un pot de soutenance pour voir comment ça se passait, et un prof que j'avais eu d'ailleurs en cours me tend une demi-coupe de champagne en me disant t'es une femme, donc une femme c'est la moitié d'un homme, donc je te donne demi-coupe de champagne.
Ok, c'était de ce niveau-là.
Ça pouvait être de ce niveau-là. Ensuite, j'ai vécu pas mal de lesbophobie, transphobie, jusqu'à un autre collègue, en fait, refusait de me saluer en salle des profs.
Ah oui.
Donc j'arrivais, j'étais avec une collègue à qui il disait bonjour, il parlait de manière très gentille, et en fait, moi, j'existais pas. C'est pas de la paranoïa, c'est-à-dire que ma collègue le voyait et était extrêmement choquée aussi par ce type de comportement.
Oui, je te confirme, tu es bien visible, je te vois.
Ouais.
Donc c'était ce genre de comportement
ouais.
Pendant tout ton parcours de thèse.
Alors ça c'était donc personnellement ce que moi j'ai vécu et après ça c'était vraiment pris dans une ambiance, un environnement classiste et raciste en plus. J'ai vraiment entendu des choses. Encore là, je peux citer un exemple, c'est une prof qui est ensuite devenue directrice de département, où je l'entends dire, moi j'ai pas trop confiance en cette élève, elle me fait un peu peur. Je dis ah bon, elle te fait peur, c'est quoi le problème? Elle dit bah je sais pas, elle porte le foulard, moi je pense qu'elle est elle est un peu extrémiste, on sait pas trop avec ces gens-là. Et je lui dis, mais de quoi tu parles, en fait? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait? Vraiment. Et voilà, il y avait tout ça. Et le classisme, bon, je sais même pas. Enfin, c'était tout le temps. Ça, c'était tout le temps. Je sais pas, les étudiants avaient jamais d'assez bonnes références. On les prenait toujours pour des personnes... un peu pour des enfants, quoi. Alors que finalement, ouais. À la fac, on est face à des jeunes adultes.
Bien sûr.
Parfois, pour certains profs, j'avais l'impression qu'on était face à des collégiens. Donc, ouais, c'était tout ça, c'était très choquant et très violent, en fait. Donc ça, c'était vraiment tout le contexte général. Moi, j'étais à Paris 4, Paris-Sorbonne.
D'accord, ouais.
Qui est une fac, bon, connue pour être assez, on va dire, conservatrice. On pourrait utiliser d'autres mots encore, mais...
Oui, donc un environnement assez violent et infantilisant.
Ouais.
Donc ça, c'était pour l'environnement, l'université.
Ouais.
Et toi, titre personnel, dans tes travaux.
Ouais. J'ai
bien. Est-ce que t'as été confrontée à certaines problématiques?
Ouais, bah déjà, moi, la base, c'était ce que tu fais, c'est pas de la géographie.
Ah oui.
Donc c'était très cash. Alors pas, bien sûr, pas tous les collègues, mais une très grande partie de mes collègues qui faisaient de la géographie physique, qui faisaient de la géographie quantitative. C'était voilà, c'est en fait j'étais pas pris au sérieux comme chercheur parce que je travaillais sur des sujets minoritaires voire sulfureux. En fait, alors
sulfureux.
Ouais, sulfureux parce que quand on parle de sexualité là, enfin, c'est incroyable comment se comportent les gens. Ils peuvent soit te raconter leurs propres expériences sexuelles, ça va très très loin, hein, on se rend pas compte comme ça, mais ou alors au contraire dire je ne veux pas entendre parler de ça. Alors que moi, quand je parle de sexualité, c'est pas, c'était pas spécialement de pratiques sexuelles, mais plutôt vraiment de comment le fait d'être hétérosexuel ou non hétérosexuel va impacter en fait la vie des personnes et comment des lieux vont pouvoir se constituer en fonction de cette norme-là.
Tu disais que ailleurs, c'était considéré comme de la géographie.
Ouais.
Ailleurs, ça veut dire en dehors de la France?
Oui, particulièrement dans le monde anglophone, en tout cas, il y avait tous les programmes de gender studies, queer studies, oui, qui existaient déjà. Et nous, on était super en retard, quoi.
Ouais, ça prend encore un peu de temps. Mmh.
Même si j'aime pas trop cette notion de retard, enfin, il y a vraiment un truc de... Ça avait vraiment du mal à percoler jusqu'aux universités françaises.
Et malgré toutes ces difficultés, est-ce que tu arrives à avancer, toi, sur ton sujet, à ce moment-là, à garder un rythme, à te dire, bon, bah, ok, il faut qu'à tel moment, je puisse rendre tels travaux, etc.
Mais si je peux juste rajouter, il y a un dernier truc, c'est que en plus de tout ça, il y avait toutes les questions politiques liées à l'université. Moi, j'étais représentant des doctorants dans mon labo et à l'école doctorale.
Ouais.
Et chaque année, il y avait un nouveau truc. Il y avait notre labo risque d'être déclassé, de ne plus être une UMR, donc de ne plus être reconnu par le CNRS. On risque de perdre des financements, donc il faut se battre. On veut nous enlever de l'école doctorale de géographie de Paris, donc il faut se battre. Donc en tant que doctorant, on devait non seulement travailler à notre thèse, mais en plus se battre pour essayer de garder le peu de
prestige.
Ouais, ou même d'argent, parce que le CNRS, en fait, finance les certains laboratoires, et c'est ça qui permet aux doctorants, par exemple, de partir sur le terrain. Mm-hmm. Pour nous, en géographie, c'est assez important.
Mm-hmm.
Et donc, voilà, c'est encore quelque chose qui nous empêchait d'avancer, quoi.
Parce qu'en plus de votre travail de doctorant, on vous ajoutait aussi un travail en tant que chercheur à l'université pour militer, enfin pour militer, mais pour défendre la cause du département.
Ouais. Et les pressions qu'elle est avec, hein, parce que avec ma collègue et amie de l'époque, on s'est retrouvés dans le bureau du président de la Sorbonne, parce qu'on avait fait circuler une pétition. Et qu'on nous disait qu'on n'était quand même pas des très bons...
Une pétition à quel sujet ?
C'était pour qu'on reste dans l'école doctorale de géographie de Paris.
D'accord.
Parce qu'ils voulaient nous mettre dans une école doctorale interne à Paris 4. Et nous, on tenait à rester en lien avec Paris 1 et Paris 7. D'accord. Et puis c'était une école doctorale, on va dire, qui était présente depuis des années, quoi. Mm-hmm. Et voilà, et on nous mettait la pression, quoi. Donc on nous a invités dans le grand, enfin l'espèce d'énorme bureau du président de la Sorbonne pour nous demander de nous taire, en fait, ce qu'on a décidé de pas faire.
Et tu gardes quel souvenir de cette période-là, de ces 5 années en thèse ?
Des très bons et des moins bons. Mm-hmm. Les très bons, c'était justement moi j'ai. Tu me demandais les solutions que j'avais trouvées. Une des solutions, c'était d'être vraiment très proche de ma collègue qui avait eu l'autre contrat doctoral. Donc on était très soudés, on allait travailler ensemble au laboratoire quasiment tous les jours. On faisait nos journées de travail et on a développé une amitié très chouette et tout. Donc ça, c'était une première chose qui m'a permis de m'ancrer vraiment dans cet environnement-là. Moi, bien sûr, il y avait le terrain, c'était notamment de faire beaucoup de soirées queer, et d'aller, en fait, dans tous ces lieux, sur lesquels je travaillais pour assister aux événements. Donc, c'était assez passionnant et j'y ai rencontré aussi, beaucoup de personnes que je côtoie encore aujourd'hui, qui sont des amis ou en tout cas des connaissances. Ça m'a permis vraiment de m'immerger dans ce milieu-là. Après, j'ai aussi fait une dépression au cours de ma thèse, et donc une des autres solutions que j'ai trouvées, ça a été de commencer une thérapie.
Ouais.
Ça m'a vraiment aidée dans mon parcours doctoral, en fait.
Oui, on parle très peu de santé mentale quand on s'engage dans un parcours de thèse, alors que c'est primordial. En soi, la thèse est un parcours assez éprouvant. Et je comprends pas, enfin moi à titre personnel, que ce soit pas un sujet abordé dans le cadre universitaire pour justement prévenir des dépressions, des burn-out, etc. Et du coup, toi aujourd'hui, tu es psychopraticien, est-ce que ton expérience de doctorant a joué un rôle dans cette reconversion ?
Alors oui. Justement, moi, la traversée de ma dépression, en fait, m'a posé beaucoup de questions sur ce milieu-là, parce que ma dépression était liée à des événements personnels dans ma vie, mais aussi, finalement, à l'environnement dans lequel j'étais au présent. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais je veux pas du tout rester là-dedans, dans ce que moi j'appelle le panier de crabe, en fait. Mmh. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire ? Et en fait, sur mon terrain de thèse, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient vécu des violences, et j'ai, par des entretiens et beaucoup de présence sur le terrain, j'ai fait beaucoup d'écoute aussi. Mmh. Et ça m'a beaucoup plu, et j'avais l'impression aussi de pouvoir rendre quelque chose à ce milieu-là, en écoutant et en étant présent pour les personnes. Et c'est aussi comme ça que j'ai décidé de me former. Je crois que ça faisait à peu près 1 an que j'étais en thérapie et j'ai décidé de commencer la formation en me disant, de toute façon, là, il me reste 1 an de thèse plus 2 ans de chômage et il faut qu'ensuite je puisse être opérationnelle pour travailler et pour gagner de l'argent. Donc là, j'ai plus trop. Enfin, c'était un choix à la fois matériel et en même temps d'aller vraiment vers quelque chose qui me semblait faire plus de sens finalement. Que la recherche.
Quand tu prends cette décision, tu es encore en thèse.
Ouais.
Tu n'as pas soutenu encore.
Mmh.
Tu soutiens en quelle année ?
En décembre 2015. Je rends en septembre 2015 et je soutiens en décembre 2015.
Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ?
Bah, c'est merveilleux. c'est quand même l'aboutissement du parcours universitaire. Moi, je viens de classe populaire, donc ça a un sens énorme de voir mes parents là, c'est la première et je pense la seule fois qu'ils ont pénétré dans mon espace universitaire. Donc de voir leur joie, la fierté. J'ai eu la chance aussi d'avoir un public assez nombreux. Il y avait peut-être entre 30 et 50 personnes dans le public. Et du coup, entendre ces applaudissements, avoir les félicitations, tout ça, ça a été très... ça m'a permis de nourrir mon estime de moi, je pense. Mm-hmm. Encore aujourd'hui, c'est quand même un appui sur lequel je peux compter.
Oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, on peut assister à des soutenances de thèse, c'est public.
Oui. Oui.
Et là, du coup, tu avais des membres de ta famille, tes parents, des amis.
Des collègues, des amis, des personnes qui, enfin, des personnes de mon, des enquêtés, enfin.
Bien sûr.
Voilà, il y avait pas mal de monde.
Et là, ensuite, tu commences, à penser l'après. Enfin, tu avais déjà commencé
J'avais déjà pensé l'après, ouais.
Mais est-ce que tu commences tout de suite une formation?
Comment j'avais déjà commencé, en fait.
D'accord.
Du coup, j'ai soutenu en décembre 2015 et j'ai commencé ma formation en décembre 2014. Donc, ça faisait déjà un an que j'étais en formation. Et pour commencer à faire le travail que je fais, il fallait 2 ans de formation. Donc, j'ai une année un peu de battement où j'ai la chance de bénéficier du chômage. Parce que moi, j'ai quand même vraiment, je tiens à le dire, un parcours privilégié parce que j'ai eu un contrat doctoral. Pour plein de personnes, ces parcours sont beaucoup plus précaires quand il faut travailler à côté, quand... Moi, j'ai eu la chance au moins de pouvoir travailler, cotiser pendant ces 5 années-là. Alors, je l'ai pensé à 2 niveaux. D'abord, je me suis dit, c'est super dur la thèse quand même. Ce serait bien qu'il y ait des gens qui soient là pour aider les doctorants. Et je me suis dit, bah, moi, je viens de passer par là. Je peux peut-être proposer un accompagnement académique. Et donc, ça correspondait bien au cadre de développement personnel par lequel j'étais obligée de passer avant de devenir thérapeute. Et du coup, j'ai proposé ça, des accompagnements avec des doctorants ou alors avec des personnes en poste mais qui vivaient des violences ou qui avaient du mal à s'intégrer justement dans ce milieu-là, pour aider les gens à poser leurs limites, à dire non, parce que dans ce milieu-là, souvent, c'est très difficile. On nous demande beaucoup de travail gratuit. Donc voilà, d'aider aussi, parce que parfois les directeurs sont, j'allais dire incompétents, mais en fait, les directeurs de thèse parfois sont juste complètement absents. Donc je propose aussi ça, de prendre cette place-là quand elle n'est pas occupée.
Ce qui n'est pas normal en soi,
non.
Parce que quand on accepte d'encadrer un étudiant ou une étudiante, on s'engage à y consacrer du temps. Moi, typiquement, c'est l'expérience que j'ai vécue. J'avais une directrice de thèse complètement absente. Et ça peut être une source d'angoisse assez importante ensuite pour le doctorant ou la doctorante, parce qu'on a l'impression que ce qu'on produit n'a pas de valeur, ou on a l'impression d'être complètement perdu, on ne sait pas où aller, on n'a pas de cadre. Donc toi, tu proposes ce type d'accompagnement.
Oui, bah, plutôt pour des gens en sciences sociales, hein, parce
qu'il
faut que ce soit relativement proche de ce que moi j'ai fait, mais en gros, géosociaux... anthropos, voilà, enfin ça passe quoi, toutes ces, et puis de toute façon l'idée est un peu toujours la même, c'est quel est ton fil directeur, ensuite comment tu travailles ta problématique, comment tu avances, voilà, donc c'est plutôt de mettre des jalons et puis de poser un calendrier ensemble qu'on revoit très régulièrement, mais pour donner du concret aux personnes, parce que dans une thèse on peut très rapidement se perdre en fait. On peut passer 5 années à lire sans rien écrire.
Ouais.
À un moment, il faut que quelqu'un dise « Stop, là, t'as assez lu maintenant, tu vas commencer à écrire et puis tu feras des allers-retours entre la lecture et l'écriture. » Voilà, des choses, c'est entre guillemets tout bête, mais en même temps, ça manque quand c'est pas là, quoi.
Ouais, et puis c'est absolument nécessaire si on veut avancer sur son sujet. Donc tu proposes un accompagnement académique, entre guillemets.
Ouais.
Et est-ce que tu proposes aussi des accompagnements pour... aider des personnes à vivre cette période de manière plus sereine. On a parlé tout à l'heure de la santé mentale des chercheuses et des chercheurs. Est-ce que tu es confrontée à des problématiques auxquelles toi aussi tu avais été confrontée quand tu étais doctorant?
Bien sûr, moi j'étais très anxieux, un doctorant très anxieux. Du coup, j'ai développé pas mal d'outils autour de ça. Donc moi, ce que je propose, c'est de travailler avec un outil qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc, en général, quand ils arrivent, la première chose que je leur dis, c'est tu vas faire 2 fois 10 minutes, 3 fois 10 minutes par jour de cohérence cardiaque, un peu d'exercice physique, tu sors marcher 20-30 minutes par jour, comment tu bois, comment tu manges, comment tu dors. Déjà, on fait le point sur toutes ces choses-là. Et puis, ensuite, on ajuste et on voit, parce que pour moi, c'est hyper important, pendant cette phase-là, particulièrement au moment de la phase d'écriture, mais d'avoir un cadre, une forme d'hygiène de vie pour pouvoir avancer sereinement.
Et est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que la cohérence cardiaque
Ouais. Pour celles et ceux qui ne savent pas. Alors, la cohérence cardiaque, c'est en fait une forme de respiration, on va dire, très simple. L'idée, c'est d'inspirer sur 5 temps par le nez, et puis d'expirer par 5 temps, sur 5 temps par le nez également.
D'accord.
Je te le refais en...
Non, c'est bon, c'est très clair, ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, tu as parlé du travail gratuit, qu'on demande, en fait, aux doctorants.
Oui.
D'ailleurs, dans un article que tu as écrit en 2019, intitulé « Les violences envers les personnes trans à l'université, des conséquences sur la santé mentale, aux pistes pour s'en sortir », tu expliques que le système universitaire produit plusieurs types de violences spécifiques, la période de recrutement, la question du travail gratuit et celle du harcèlement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui. Sur la question des recrutements, ce que j'ai voulu dire, c'est que, en fait, rien n'est fait pour que les personnes trans, mais je peux élargir à toutes les personnes minoritaires qui travaillent sur des sujets minoritaires, aient des postes. Pourquoi ? Parce que soit on a des profils de postes qui sont pas du tout profilés, et dans ce cas-là, les sujets minoritaires ne sont pas prioritaires. Soit on a des postes beaucoup trop profilés, qui empêchent en fait de candidater quand on est un peu dans des sujets justement minoritaires ou à la marge. Donc c'est très difficile déjà de trouver des postes sur lesquels candidater. Ça, c'est un peu le premier point. Ensuite, moi j'ai vraiment voulu parler des commissions de recrutement. Parce que on nous dit que le recrutement par les pairs, c'est le meilleur moyen de trouver des personnes excellentes, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment des lieux de pouvoir énormes. Qui est dans les commissions de recrutement ? Si on regarde les profils des personnes qui sont dans les commissions de recrutement, est-ce qu'on va pas trouver un lien avec le type de personne qui est recrutée ? Quels sont les présupposés, je sais pas, épistémologiques, théoriques des personnes qui sont dans ces commissions de recrutement. Moi, ce que j'ai eu l'impression de voir, en tout cas, c'est que loin de favoriser l'originalité, en fait, on favorise la reproduction des savoirs, tout simplement. Et ça me mettait très en colère. Moi, j'avais l'impression que, je sais pas, le CNRS ou même l'université, le but, c'était au contraire d'avoir des recherches de pointe, d'aller se poser des questions. Et en fait, non, maintenant, de plus en plus, quand on recrute, on voit si la personne, elle va être capable d'aller chercher des financements. C'est surtout ça qui est intéressant. Et on l'a vu, il y a eu plusieurs affaires au niveau du CNRS autour de ces questions-là. Alors, la question du travail gratuit, j'ai parlé vraiment d'une norme universitaire du travail gratuit. Pourquoi ? Parce que quand on est doctorant, financé, mais les personnes pas financées de la même manière, on dit... Oui, pour ton CV, ce serait bien que tu organises une journée d'études, ce serait bien que tu sois représentant des doctorants, il faut que tu aies écrit 2 articles dans des revues à comité de lecture, il faut que... nanana. Tout ça, c'est des espèces de règles implicites qu'on nous dit non, surtout, ce qu'il faut que tu fasses pendant tes 3 ans, c'est rédiger ta thèse. C'est vraiment une double contrainte, c'est ne rédige que ta thèse, et surtout, fais tout un tas d'autres choses à côté, sinon tu n'auras pas de poste ensuite. Et c'est complètement confusant comme discours. Du coup, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps ? Surtout les premières années, on fait tout sauf notre thèse. Et puis, en deuxième, troisième année, on commence à se dire, mais comment je vais faire, là ?
Il faut que je rentre quelque chose,
voilà.
En fait.
Et c'est aussi pour ça, je pense que les thèses, elles durent 5 ans. C'est qu'en fait, on passe pas 5 ans à travailler vraiment sur notre sujet. Dans des colloques internationaux qui servent à pas grand-chose, enfin, voilà.
Et concernant le harcèlement psychologique ?
Alors, moi j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me consulter sur ces questions-là. Harcèlement soit de collègues, soit carrément de l'institution envers LE, parce que elles avaient organisé des événements considérés comme non, je sais pas, qui ne convenaient pas à la politique de l'université, des choses comme ça. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper problématique. En fait, dans l'université, il n'y a pas grand chose de pensé, il y a un encadrement psychologique qui est insuffisant. Souvent les psys sont débordés. Il n'y a pas vraiment de personnes qui de ressources qui font vraiment des ressources humaines. Donc c'est en fait des profs qui se retrouvent directeurs du FR, qui savent pas du tout comment gérer des équipes et qui font qui peuvent exercer ce genre de pression, de harcèlement, de menaces et c'est assez fréquent en fait.
Les questions de légitimité reviennent souvent dans la recherche. On se demande tout le temps quid de ma légitimité pour parler de tel ou tel sujet. En tant que psychopraticien, tu accompagnes aujourd'hui des chercheuses et des chercheurs. Est-ce que c'est une problématique qui est souvent évoquée chez tes patientes et patients? Et est-ce que tu as des outils, des solutions pour contrer ces pensées limitantes?
Oui, alors c'est quasiment toujours évoqué. Alors, il se trouve que, j'ai presque envie de dire étrangement, c'est ironique, je reçois beaucoup de doctorants, doctorantes qui sont minoritaires sur un des axes d'oppression, ou plusieurs. Donc moi, je commence déjà par leur faire expliciter où elles en sont. C'est-à-dire, comment elles sont arrivées là. Souvent, donc ça a été des bonnes élèves, qui ont pas mal travaillé. Je leur fais répéter leur accomplissement, parce qu'en fait, un des problèmes avec la légitimité, c'est que les personnes oublient souvent ce qu'elles ont fait pour en arriver là. Et donc, je commence déjà par stimuler de la fierté par rapport à ce parcours, ou à minima, la reconnaissance qu'il fallait vraiment du courage pour passer par là, pour arriver jusqu'ici, quoi.
D'accord.
Et pour s'y lancer. Et ensuite, pour moi, l'idée pour sortir de ces pensées limitantes, ces croyances limitantes, c'est de changer de position perceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple. Je leur dis, ok, imagine, une amie te raconte ce parcours que tu viens de me décrire et te dit, je me sens nulle, je suis pas légitime. Qu'est-ce que toi, tu vas lui répondre, en fait? Et ça permet souvent de prendre conscience que on est beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres, et justement de commencer à apprendre à se soutenir soi plutôt que de se donner des coups de bâton, ou voilà. Et c'est vraiment ce que je propose dans un premier temps, c'est apprendre à être plus bienveillant envers soi-même. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais vraiment pour moi c'est au fondement. Ensuite, je peux travailler avec des techniques de visualisation créatrice, c'est-à-dire comment ce sera quand t'auras fini, comment tu verras les choses, comment tu te sentiras et qu'est-ce que tu te diras de toi justement pour changer les croyances, ces croyances limitantes. Et tout ça, l'idée c'est vraiment de stimuler du mouvement, de montrer que oui ça peut bouger, que ça peut avancer, qu'on n'est pas forcément coincé, parce que souvent quand les gens viennent me voir ils se sentent vraiment coincés en fait. C'est cette thèse, je finirai jamais, je vais jamais y arriver en
fait. On n'en voit pas le bout.
Voilà. Et bon, ça c'est vraiment une partie du travail. Parfois, il y a aussi un travail plus profond à faire en thérapie. Notamment, il peut y avoir la peur de trahir les parents, de les perdre en changeant de classe sociale. Toutes ces choses-là qui sont plus profondes. Et en même temps, voilà, pour tous les transfuges de classe, enfin, peut-être pas tous, mais pour une grande partie des transfuges de classe, c'est des questions vraiment importantes.
Aujourd'hui, comment tu arrives à concilier tes deux casquettes, chercheur et psychopraticien?
Alors, j'y arrive pas très bien. Mon travail de psy me prend beaucoup de temps, puisque j'ai les consultations sur 3 jours, j'ai les supervisions, c'est-à-dire aller parler de mes problèmes de psy avec des psys plus âgés pour qu'ils m'aident, continuer ma thérapie personnelle, finir des formations, tout ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai essayé de trouver de trouver du temps autrement. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est déjà de me laisser penser à ce que j'aimerais écrire. Souvent, il y a des choses qui tournent dans ma tête pendant un certain temps. Et puis, quand je sens que c'est prêt, je me laisse quelques jours déjà pour écrire un premier jet. Et puis, revenir régulièrement sur mon texte. En général, j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour écrire. mais j'ai besoin que ça mûrisse vraiment avant. Bien sûr, je fais que des formats courts parce que pour l'instant, je peux pas vraiment avoir suffisamment de temps pour écrire un bouquin, par exemple.
Donc c'est des articles.
Ouais, c'est plutôt des articles. Et après, depuis juin, j'ai essayé de réduire mon temps de travail à 3 jours ou 3 jours et demi pour me laisser justement du temps pour écrire, mais je verrai ce que ça donne. D'autres choses, parfois je me lève plus tôt pour travailler avant mes consultations, mais bon, pour l'instant c'est vraiment assez frustrant, j'ai bien sûr beaucoup moins de temps pour lire, et en même temps, c'est intéressant parce que je me suis petit à petit détachée de la théorie, pour être de plus en plus pragmatique, peut-être par la force des choses, je sais pas, puisque j'ai plus vraiment de temps pour penser de manière théorique.
Et quels sont tes prochains projets ?
Alors, cette année, je dois écrire mon mémoire de jury pour obtenir le certificat européen de psychothérapie,
donc
pour vraiment finir mon parcours. Ça va déjà pas mal m'occuper, je pense. Et dans les années à venir, je voudrais écrire un livre sur la pratique clinique avec des personnes queer et trans, qui me permettrait à la fois de relier mon travail de thèse et où je suis spécialiste de ces questions-là, des questions queer et ma pratique clinique. Donc ça sera j'aimerais bien écrire un livre en fait là-dessus. On verra, je sais pas le temps que j'aurai pour le faire et tout, mais c'est vraiment mon projet à plus long terme. Et j'aimerais aussi en fait parallèlement à ça faire des formations pour les soignants, justement à l'accueil des personnes queer et trans, pour bien traiter et favoriser vraiment la bienveillance et la bientraitance auprès de ces personnes.
Bah, on a hâte de lire ce livre. Quand il sera publié, n'hésite pas à nous tenir au courant. Je tiens à te remercier d'avoir accepté de me recevoir pour cet épisode. Et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci Chaprieur d'avoir accepté de me recevoir. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant son accompagnement sur son site internet Chaprieur. chaprieur-accompagnement.fr ainsi que sur sa page Facebook chaprieur-psychothérapie et accompagnement académique. Vous pouvez suivre l'actualité de YEPHD sur son tout nouveau site internet yephd.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également soutenir le podcast en ajoutant 5 étoiles sur les plateformes de streaming. À très bientôt.